la réforme de l'administration publique en RDC. Dans un atelier d'évaluation de ce processus organisé la semaine dernière à Kinshasa, les participants ont affirmé que 10 ans après, des avancées ont été signalées, mais que beaucoup reste à faire. Ils citent notamment l'identification des fictifs et la bancarisation de la paie. Cependant, figure parmi les faiblesses entre autres la modicité des salaires et la corruption. Quelle analyse faire de ce bilan? C'est le thème que nous vous proposons ce soir. Et pour en parler, je reçois Jean-Serge Bikoro, coordonnateur de la cellule de mise en œuvre de la réforme de l'administration publique. Monsieur Bikoro, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Modeste Rachidi Kayombo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole des syndicats indépendants de l'administration publique. Polydor Tangeli, bonsoir.
Bonsoir, Alain.
Vous êtes analyste des questions sociales et expert en matière de travail. Merci de nous recevoir chez vous.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La réforme de l'administration publique de la RDC a été évaluée la semaine dernière à Kinshasa dans un atelier regroupant le ministère de la fonction publique, les secrétaires généraux de l'administration, les syndicats mais aussi les bailleurs internationaux. Objectif visé, examiner ensemble la mise en place d'une administration de qualité, anticorruption et où l'agent est revalorisé. Constat de cet atelier, il y a eu quelques avancées mais beaucoup reste encore à faire. Dona Madimba.
Toutes les parties à cet atelier d'évaluation étaient unanimes. L'administration publique de la RDC se cherche encore. Les objectifs n'ayant pas encore été atteints à ce jour, les agents restent à ce jour sous tutelle de leur ministère respectif et non sous commandement unique de la fonction publique. Les effectifs pas encore totalement maîtrisés, les salaires toujours aussi faibles, des détournements de fonds, la corruption sans oublier la démotivation, les désertions, voire des refus de travailler. Tout cela explique, selon les syndicalistes et les bailleurs de fonds, pourquoi à ce jour une réforme commencée en 2005 se poursuit encore aujourd'hui.
La volonté politique y est. Mais ce que nous demandons, parce que les administrations publiques, les services publics ont un principe de continuité, que ce soit une action continue.
Je crois qu'aujourd'hui, il faut saluer ce séminaire pour faire un état des lieux sur l'avancement et saluer effectivement tout ce qui est en train d'être mis en place. Ça prend du temps et ce temps est nécessaire pour vraiment asseoir ce genre de réforme.
Cependant, argumentent les parties à cet atelier d'évaluation, certains résultats ont tout de même été obtenus, notamment de nombreux contrôles ayant permis d'identifier l'effectif, la bancarisation de la paie, mais aussi quelques augmentations, certes modiques, mais des augmentations de salaire quand même.
Merci Dona Madimba. Jean-Serge Bikoro, vous êtes coordonnateur de la cellule de mise en œuvre de la réforme de l'administration publique. 10 ans après le lancement de ce processus, que peut-on dire? Le bilan est-il, selon vous, positif, mitigé ou négatif?
Merci pour la parole. Dans le cadre de mes fonctions de coordonnateur de la mise en œuvre de la réforme de l'administration publique, je pourrais dire, c'est vrai, 10 ans après, c'est-à-dire on se projette vers 2005, nous venions d'une situation relativement compliquée avec les instabilités politiques et tout le reste. Et en 2006, effectivement, le Congo a fait le choix d'une autre configuration, notamment la gestion de l'État par la décentralisation, et beaucoup d'autres initiatives de réforme ont été prises en compte. Et le temps que cela se mette en route, le temps que cela se consolide, en 2012, à l'arrivée du nouveau gouvernement, la stratégie de la réforme de l'administration publique a été révisée pour justement prendre en compte un certain nombre de priorités nécessaires pour asseoir une administration publique efficace au service de l'État et des usagers. C'est à ce sujet qu'il a été défini un cadre stratégique de la réforme de l'administration publique qui permet de cerner un certain nombre de points essentiels autour duquel la stratégie est assise pour essayer de renforcer cette administration appelée à jouer un rôle crucial pour l'État. Donc, moi, je pourrais dire qu'à partir de 2012, la réforme de l'administration publique a pris une vitesse de croisière et des résultats sont remarquables à ce moment, à ce sujet. Et bien entendu, beaucoup reste à faire comme il a été évoqué, mais l'essentiel, c'est d'avoir cerné la voie de sortie, de l'avoir circonscrite et en même temps de pouvoir lancer un certain nombre d'activités qui permet de déclencher l'effet d'entraînement sur d'autres secteurs. Donc pour moi, les réformes ou la réforme de l'administration publique dans sa diversité a pris de la vitesse, les actions sont en train d'être mises en œuvre et l'engagement politique est au plus haut niveau pour pouvoir y arriver, surtout avec la participation des acteurs clés comme les syndicats, les administrations et les partenaires.
Alors, il y a eu des résultats. Vous dites que c'est depuis 2012 la réforme a pris sa vitesse de croisière. Commençons par les avancées, les résultats positifs, avant que l'on aborde les faiblesses et les propositions. Qu'est-ce qu'on peut retenir parmi les avancées ?
Première avancée significative, c'est le fait que les résultats de l'échec, enfin les résultats ou les causes de l'échec de la réforme initiée par le passé étaient dues au fait que les cadres de pilotage et de coordination de la mise en œuvre de la réforme n'étaient pas clairement définis. Il y avait une diversité de structures qui s'occupaient de la réforme sans pouvoir mettre en place un système de cohérence et de coordination des efforts. Il a été mis en place en 2012 déjà un comité de pilotage de la modernisation de l'administration publique sous le pilotage de Son Excellence Monsieur le Premier ministre. Et pour consolider le pilotage politique, il a été défini un cadre technique autour du ministère de la fonction publique en reconnaissant et en recentrant le pouvoir de la fonction publique dans le domaine de la réforme administrative. C'est à ces sujets qu'il a été créé, notamment la cellule technique des mises en œuvre de la réforme de la fonction publique, comme un guichet unique qui appuie le ministre de la fonction publique ou le ministère de la fonction publique dans la mise en œuvre des décisions arrêtées au niveau du comité de pilotage. Premier aspect. Deuxième aspect, c'est cette volonté d'évoluer vers une administration publique efficace qui appelle une révisitation d'un certain nombre d'organisations de l'administration. C'est essentiellement, par exemple, le cadre juridique qui organisait ou qui organise la fonction publique qui était devenu obsolète et inadapté au contexte actuel. Je venais d'évoquer, par exemple, le choix de la décentralisation en 2006, alors qu'en 2012, nous avions encore un statut de 1981 qui n'intégrait pas cette nouvelle donne. Donc, le cadre juridique est en cours de révisitation et à ce niveau, à ce moment où je vous parle, le Parlement est en train de finaliser l'examen et l'adoption des deux projets de loi importants pour révisiter et donner un cadre juridique adapté à l'évolution.
Troisième résultat,
c'est notamment la question liée au rajeunissement et la mise en place de l'École nationale d'administration qui permet aujourd'hui de doter notre administration des nouvelles énergies susceptibles d'apporter une gestion publique efficace et excellente, adaptée aux besoins de la réforme. Il y a d'autres résultats qui sont en cours, notamment la mise en place d'un système intégré de gestion de ressources humaines qui permet non seulement de maîtriser les effectifs, mais également de maîtriser la problématique de la masse salariale et d'évoluer vers une gestion efficace et rationnelle des ressources humaines.
Alors avant qu'on aille plus loin, que je donne la parole à Modeste Rachidi Kayombo, on sait que parmi les épines qui continuent à empiéter sur la marche de la fonction publique, c'est le problème de l'effectif. Où en sommes-nous concernant cet aspect ?
Déjà en 2013, comme un autre résultat, le programme d'action du gouvernement a donné commission au ministère de la fonction publique de finaliser les recensements biométriques qui avaient été lancés depuis 2005, ce qui a été fait et exécuté, réalisé en 2013 déjà. Donc, à ce jour, le ministère de la fonction publique a finalisé les recensements biométriques.
On est à combien de fonctionnaires là ?
En tout cas, hors police, armée et PSP, les statistiques sont autour de 800 000 dans le chiffre brut. Maintenant, nous sommes à l'étape d'assainissement de la base de données qui vont nous permettre, après l'exercice qui est en cours, d'éliminer tous les doublons et d'évoluer vers une situation maîtrisée, notamment par la mise en place de ces systèmes intégrés de gestion de ressources humaines.
Merci Modeste Rachidi Kayombo, vous êtes porte-parole des syndicats indépendants de l'administration publique. Pour commencer, 10 ans après, pour vous, quel bilan vous dressez de la réforme de l'administration publique, positif, négatif, mitigé?
Ce que je peux dire, d'après notre analyse, c'est que c'est du brouillard.
Pourquoi?
Parce que lorsqu'on entreprend une réforme, on a des indicatifs de résultats qu'on recherche. Il y a des produits qu'on doit pouvoir, n'est-ce pas, viser pour que non seulement l'outil de travail soit valorisé, mais que l'homme aussi, c'est-à-dire l'agent de l'État lui-même, puisse recouvrir la motivation qu'il avait d'antan. Donc, lorsque nous regardons d'abord l'aspect produit, il peut être cité sans efficacité le recensement biométrique, comme on l'a dit, comme M. Jean l'a dit tout à l'heure. On peut citer également la bancarisation, mais ces deux processus n'ont pas encore été achevés parce que les plaintes continuent. Donc nous, c'est par rapport à l'agent de l'État que nous disons que la réforme, c'est encore du brouillard, étant donné que dans l'assiette du fonctionnaire, rien n'a été amélioré. Et aujourd'hui, nous avons encore des gens qui sont nouvelles unités, non payés, bloqués. Et alors, on se pose la question, pendant combien de temps un agent d'État peut-il être bloqué pour qu'il recouvre, n'est-ce pas, les arriérés, quand et comment? Donc, tout ça démontre clairement qu'il n'y a pas une avancée significative.
Mais M. Jean-Serge Bicoro a tout à l'heure énuméré quelques avancées, la volonté, la révisitation du cadre juridique, le rajeunissement avec l'École nationale d'administration. Alors, par rapport à tous ces efforts, vous pensez que c'est vraiment minime et que ce n'est que du brouillard?
Bon, parlons d'abord de l'École nationale d'administration. Moi, je crois que, du point de vue de la Constitution, l'agent qui est en place, parce que nous avons aussi des jeunes qu'on croit pouvoir remplacer pour dire qu'ils sont des vieux, ils ont droit à une formation continue. Donc, l'École nationale d'administration ne peut que recruter les jeunes qui viennent des universités et d'autres écoles pour qu'ils soient formés pendant 6 mois pour remplacer tous ces jeunes aussi qui n'ont pas dépassé 50 ans, qui sont là en fonction sans procédure. Alors nous disons, mais l'École nationale d'administration, bien que ce soit une belle institution, utile pour le pays, mais ne doit pas être utilisée pour écraser les autres. C'est de ce point de vue-là que nous disons que l'École nationale d'administration risque, n'est-ce pas, de violenter les droits d'autres agents de fonction de l'État. Et l'aspect que vous avez évoqué tout à l'heure là, mais c'est un aspect qui gêne. Vous pensez que depuis que la gestion, donc le pays a sombré, beaucoup de cadres ou beaucoup d'agents de l'État n'ont pas connu de promotion. Aujourd'hui, quelqu'un a été bloqué à son grade, par exemple, le chef de bureau, pendant 15 ans, pas de promotion, chef de division, pendant 20 ans, pas de promotion, mais vous voulez l'écarter sans ménagement, et lorsque vous voulez, n'est-ce pas, admettre quelqu'un sous statut, après 6 mois de formation à l'École nationale d'administration, il devient chef de bureau, donc chef de celui qui est expérimenté. C'est quel pays? Donc, c'est deux républiques dans un même pays? Non! Nous disons, nous sommes d'accord avec la vision du gouvernement, mais les mécanismes pour lesquels lesquels nous devons utiliser pour arriver, n'est-ce pas, à satisfaire les droits fondamentaux des autres, doivent être respectés. C'est cela notre combat. Alors nous disons, tant que cette volonté-là de pouvoir accompagner ceux qui sont vieux à une vie meilleure ou quasi meilleure après leur déloyaux service à la nation, eh bien, c'est une question importante. Donc, nous appelons ça produit. Donc, il n'y a pas de produit concret qui puisse motiver les gens, par exemple, à aller à la retraite. Par exemple, aujourd'hui, lorsqu'un agent de l'État tombe malade, il est remplacé automatiquement à son service. Hein? Et lorsqu'il revient, il est mis au garage à la disposition de la fonction publique. C'est ça la bonne méthode de gérer. Donc, il n'y a pas de critères d'évaluation qui soient appliqués. Il n'y a pas de motivation en termes de promotion en grade. Donc, il n'y a pas d'assurance emploi. Disons ça comme ça de manière claire.
Et c'est ça qui donne accès à la corruption et au détournement.
Il n'y a rien à faire parce que quelqu'un qui sait qu'il peut être chassé comme un chien à tout moment, qu'est-ce qu'il fait? Et où il peut aller à la retraite sans pouvoir avoir, n'est-ce pas, récupéré un peu de ce qu'il devait récupérer comme agent de l'État. Et il tire les tiroirs, il prend l'argent, il prend les papiers, il vend et il se sert. C'est ça.
Mais M. Jean-Serge Bicoro a tout à l'heure affirmé que les statistiques faisaient état de près de 800 000 fonctionnaires et que l'on est dans un processus d'assainissement pour une maîtrise des effectifs, ne pensez-vous pas que c'est quelque chose de bien qui va donner des résultats positifs pour qu'on améliore le vécu du fonctionnaire?
Je souligne ici qu'il y a encore beaucoup de gens qui attendent d'être d'avoir la carte biométrique,
qu'on appelle d'être recensés.
Oui. Donc, on n'est pas autour de 800 000. Il y en a qui réclament, n'est-ce pas, le recensement ou l'admission sous statut depuis des années à l'intérieur du pays. Qui réclament? Nous recevons les courriers. Donc, nous ne disons pas qu'il ne faut pas assainir les effectifs. Il faut enlever absolument les doublons. Et la bancarisation avait pour objectif, justement, de détecter les doublons, donc les fictifs qui étaient cachés sous les doublons, pour qu'on ait les gens effectivement au travail. Alors, cette opération n'est pas claire de bancarisation. On n'a jamais rendu compte depuis qu'on a commencé la bancarisation en 2011. On n'a jamais rendu compte aux fonctionnaires. Quel a été le résultat concret en termes de récupération des masses monétaires, en termes de doublons, tel qu'on les dit? On ne les dit pas. Donc, on parle de doublons. C'est de la fiction, ce qu'on est en train de dire là. Nous, nous voulons avoir des choses concrètes.
Merci. Polydor Tangeli, vous êtes analyste des questions sociales et expert en matière du travail. Vous avez suivi Jean-Serge Bikoro et Modeste Rachidi Kayombo. Pour vous, quelle analyse vous faites du bilan de 10 ans de la réforme de l'administration publique en RDC?
Je m'associe à ce qu'a dit Serge. De la même manière, je trouve que cela est complété de la bonne manière par Monsieur Modeste Rachidi Kayombo, en ce sens que le processus a été déclenché depuis 2005 et 10 ans après, nous ne pouvons pas nier qu'il n'y a pas de réalisations. Il y a des bonnes réalisations qui font aujourd'hui l'honneur du pays, l'honneur d'une prise de conscience de vouloir recadrer les choses vers la bonne direction. Puisque il y a 10 ans, il y a 4 ans, il y a 6 ans, nous alignions devant les comptables avec des sachets pour prendre de l'argent. Aujourd'hui, certaines banques donnent octroi de crédit à des fonctionnaires, soit des avancées significatives, la gestion des effectifs a été maîtrisée. Mais cependant, s'il faut faire une analyse objective du processus de la réforme, je puis affirmer ici que le bilan est mitigé. Mitigé malgré les réalisations. D'abord, parlons des réalisations. Par rapport aux réalisations qui ont été faites, il se pose deux problèmes majeurs. Le problème de la finalisation des réalisations et de la qualité de produit.
Commençons par la finalisation.
La finalisation. Il y a eu l'axe de maîtrise des effectifs dont un des aspects était la mise à la retraite. Et il y a eu des décisions de mise à la retraite dont qui ne sont pas finalisées. Par là, vous savez qu'il y a des gens qui ont été mis à la retraite depuis 2010 qui continuent à toucher au salaire. C'est grave. La qualité du produit. Au jour d'aujourd'hui, la bancarisation. La bancarisation, pour plus d'un fonctionnaire, c'est un malheur. Surtout pour les fonctionnaires de l'intérieur. Ce qui montre que, au niveau de la conceptualisation du produit, il y a eu des ratés. Et là, nous devons l'avouer. Deuxièmement, parlons du processus lui-même par rapport aux fonctionnaires. Au fait, l'élément majeur qui détermine la réussite d'un processus de la réforme, c'est l'appropriation du processus par le bénéficiaire. Circuler dans des administrations, essayer de parler de la carte biométrique, de la mise à la retraite, de maîtrise des effectifs aux fonctionnaires, vous allez attendre leurs résultats. Donc, 10 ans après, nous sommes en face d'une situation d'écart entre l'adhésion massive qui a été observée en 2005 par rapport à 2015. Là, c'est aussi un problème qui se pose. Un autre élément qui doit faire l'objet d'observation, au-delà des avancées significatives que nous reconnaissons, c'est aussi l'apport du gouvernement
dans le processus. C'est un des griefs reprochés au gouvernement. En réalité, les coordonnateurs là, Serge là, il peut nous renseigner sur l'augmentation exponentielle de l'apport du gouvernement dans le financement du processus de la réforme. Cet élément est très déterminant pour voir comment les choses vont évoluer. Hein? Lorsque vous échangez avec les partenaires techniques et financiers, il y a des concepts tels que non-objection, et vous allez, ça c'est devant les partenaires, vous revenez au gouvernement, il y a des concepts tels que la chaîne des dépenses, déficit budgétaire. Donc ce sont des éléments qui font aujourd'hui que beaucoup reste à faire malgré les avancées qui sont enregistrées au jour d'aujourd'hui.
Alors, quand vous relevez le fait, par exemple, qu'il y a une non-appropriation du processus par les fonctionnaires, cela voudrait-il dire que le fonctionnaire qui devrait être le centre de la réforme ne l'a pas été?
Non. Au jour d'aujourd'hui, faites le sondage, vous verrez que l'adhésion telle qu'elle était observée en 2005 n'est plus la même. Pourquoi? Puisqu'au fait, il y a eu un effet boomerang. Le fonctionnaire a vu, à travers la réforme, des effets corrosifs sur sa carrière. Ouais. Et aujourd'hui, il y a un certain désintéressement au processus. Ça, c'est une réalité. Faites le sondage et vous allez vous en rendre compte.
Donc, en d'autres termes, la réforme a apporté beaucoup plus de mal que de bien.
Bon, il a apporté de bien. Mais les mots sont beaucoup plus rongeurs. Aujourd'hui, je pense qu'une bonne évaluation, parlons de l'évaluation puisque ça fait l'objet du débat. Je pense qu'une bonne évaluation ne regrouperait pas des experts de haut niveau qui prononcent des discours. Une bonne évaluation partirait d'un diagnostic, d'un sondage qui renseigne sur la perception du fonctionnaire, la perception que s'est faite le fonctionnaire du processus de la réforme. Je pense que là, il n'y aurait pas un écart entre le décideur ou le gestionnaire, merci, ainsi que le bénéficiaire.
Merci. Jean-Serge Bicoro, avant de répondre à ces préoccupations, il y a une qui nous vient de Bukavu, que nous allons suivre pour vous.
Emmanuel Niroué de Bukavu, au Sud-Kivu. La réforme de l'administration paraît sous d'autres cieux comme le socle d'un développement durable et on ne peut pas y parvenir sans études de fond pour ne pas tomber dans le chaos. Mais chez nous en RDC, on improvise les choses sans en connaître les tenants et les aboutissants, raison pour laquelle plusieurs réformes ne font que bâcler chez nous. On dirait les initiateurs de ces projets veulent uniquement inscrire leur nom dans l'histoire du pays. Cela peu importe les résultats auxquels on aboutirait. Je ne comprends pas pourquoi on peut citer parmi les avancées de la réforme de l'administration publique la découverte des personnels fictifs dès lors que les instigateurs n'ont pas été mis à la disposition de la justice.
Qu'est-ce que vous répondez à ce compatriote?
Bon, je retiens deux préoccupations du compatriote. Il s'interroge sur l'existence d'une étude préalable pour lancer cette réforme. Je lui dirais qu'il devrait peut-être s'informer davantage parce que la réforme actuelle est conçue à la suite d'une évaluation profonde et d'un diagnostic total sur l'administration. C'est pourquoi elle répond à chaque aspect essentiel de préoccupation de l'administration. J'ai parlé de la question du cadre juridique dépassé. Nous sommes en train de revisiter le cadre juridique justement pour l'adapter. J'ai parlé de la question liée à la maîtrise des effectifs et à la gestion rationnelle des ressources humaines. Je vous ai cité ici le système intégré de gestion des ressources humaines et de la paie qui fera désormais l'objet de l'instrument de gestion des ressources humaines dans notre administration. Donc on devra désormais maîtriser le fonctionnaire depuis son recrutement jusqu'à sa sortie de l'administration et à travers un système qui permet à la fois d'asseoir la transparence et la gestion. J'ai également parlé ici d'ELENA parce que le fonctionnaire aujourd'hui doit notamment évoluer en carrière et c'est la formation qui doit lui apporter la compétence nécessaire. Ici, je voudrais également relever le fait que M. Rachidi a observé que l'ENA forme
forme les jeunes fonctionnaires pour 6 mois. Non, l'ENA est un instrument du gouvernement qui a pour double mission la formation initiale, c'est celle qui s'adresse aux recrues qui viennent des universités, mais la formation continue pour accompagner le fonctionnaire en plein carrière dans le développement de sa carrière. Donc, c'est autant des questions qui existent, peut-être. Il faut renforcer la communication qui a été soulevée tout à l'heure, mais tous ces éléments, le produit, les résultats, les indicateurs sont bel et bien existants parce que c'est sur base de ça qu'on a établi l'atelier, qu'on a mené l'atelier d'évaluation sur où nous en sommes et qu'est-ce que nous devons faire pour accélérer le processus.
Alors, qu'est-ce que vous répondez également à Rachidi Kayombo qui disait tout à l'heure que le recensement et la bancarisation sont des processus inachevés?
Non, c'est lui-même a parlé du processus. Un processus, c'est un processus. C'est des instruments qui ont été définis à très court terme pour essayer d'arrêter l'hémorragie. Mais il y a des instruments qui sont définis pour gérer durablement cette question. C'est le cas du système intégré de gestion de ressources humaines et de la paie qui vient d'être achevé et dont l'utilisation sera effective au mois de septembre. Avec cet instrument, qui sera corrélé à la fois à la gestion de la carrière du fonctionnaire, mais aussi à sa paye, il est clair que la situation sera maîtrisée totalement. Mais dans le court terme, il fallait déjà mettre en place des mécanismes qui permettent de maîtriser tant soit peu les effectifs et en même temps de réduire les chances de doublons et même des situations d'effectifs qui existent dans l'administration.
Alors, parmi les faiblesses, il y a notamment la corruption, les détournements des fonds, la démotivation, les désertions et même des refus de travailler. Comment vous expliquez tout ça?
Non, j'explique cela que, effectivement, nous avons tous contribué pendant longtemps à détruire toute notre administration, à détruire cette administration qui est censée apporter un peu, n'est-ce pas, à l'État son efficacité dans la réalisation de ses missions et fonctions. Et c'est ce qui explique même l'existence de nouvelles unités dans l'administration dont il a été, ça a été évoqué tout à l'heure. Cela relève de la non-utilisation, du non-respect du cadre juridique existant par nous-mêmes pendant très longtemps. Maintenant, le travail, tout le travail auquel la réforme actuelle essaie de répondre, c'est essayer de reconstruire un mécanisme qui nous permette de réduire la corruption, de motiver davantage le personnel en mettant non seulement un mécanisme de politique salariale qui soit incitative, mais aussi un mécanisme de gestion efficace des sécurités sociales, notamment par la caisse des retraites et d'autres types d'outils essentiels pour essayer d'améliorer, y compris la formation continue, les évaluations et
tout. Un mot très rapidement avant que je donne la parole à Rachidi Kayombo sur l'apport du gouvernement dans ce processus dont a parlé Polydor Tanguedi.
Oui, c'est parce que nous n'avons pas assez de temps. Quand je parlais des grandes réalisations, et j'ai même souligné que la vitesse de croisière a été entreprise en 2012, c'est que l'apport du gouvernement est lisible désormais et traçable à partir du budget 2012. Merci. La réhabilitation du bâtiment public de l'administration publique est en cours, c'est sur financement propre du gouvernement. La relance de l'ENA à plus de 60%, c'est sur financement du gouvernement. Merci. La création de la caisse des retraites qui est en cours. Donc, bref, on sent que l'engagement du gouvernement peut aussi se retracer à travers son engagement budgétaire. Et ça, si vous comparez les budgets 2006 au budget 2012, 2013, merci, 2014, vous avez des résultats qui vous indiquent que le gouvernement est assez engagé dans le domaine.
Merci. Modeste Rachidi Kayombo, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi.
Maxime Kabila de Lubumbashi au Katanga. Tout n'est pas obscur dans la réforme de l'administration publique. Le développement d'un pays commence par un pas, comme la construction d'un immeuble ne commence que par la pose de la première pierre. Ceci veut dire que ce que le gouvernement a déjà fait dans la dite réforme est manifestement une volonté de mieux faire. Ce à quoi il doit beaucoup s'atteler à l'estiler, c'est la lutte contre la corruption qui gangrène les politiques congolais sans exception.
Modeste Kayombo.
Bien, moi je pense que nous parlons la même chose. C'est peut-être parce que les concepts que nous utilisons des réformes peuvent avoir des compréhensions différentes. Moi, d'après ce que moi je sais, la réforme, on la traitera sur 5 axes fondamentaux, théoriques.
Lesquels?
1. Quelle est la vision qu'on donne à la nouvelle administration? faudra-t-il que ce soit une administration soumise aux politiciens ou une administration qui a des missions précises à exécuter. Ce qui ferait que l'administration soit séparée de la politique. Certaines fonctions qui doivent être exercées par l'administration ont été récupérées par les cabinets politiques. Deuxième axe, c'est les activités que une administration peut faire. Est-ce qu'on peut l'évaluer en quantité pour savoir quelle est la productivité souhaitée? Troisième axe, est-ce que les méthodes et procédures qu'on utilise sont-elles suffisantes, et les stratégies sont-elles suffisantes pour que les services à la population soient améliorés? Du moins, le bien-être de la population, parce que l'administration est là pour promouvoir le bien-être de la population. Quatrième axe, ce sont les structures. Mais vous savez qu'il y a pléthore dans toutes les administrations de la fonction publique. Vous savez. Pourquoi? Parce que chaque secrétaire général, chaque ministre qui venait, il engageait. Aujourd'hui, nous avons des gens qui n'ont pas de place pour occuper des bureaux et faire le travail, même si il peut y avoir du travail dans les cadres généraux. Mais il y a un tassement des fonctionnaires à Kinshasa, il y a absence des fonctionnaires à l'intérieur du pays. C'est ça la vérité. Donc, ce dysfonctionnement-là, c'est dû, n'est-ce pas, aux acteurs politiques. Donc, les structures qui ont été mises en place demande à ce qu'on soit, elle soit donc remise en état pour qu'on mette l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Le clientélisme avait tout détruit. Aujourd'hui, nous avons des structures. Ce n'est pas le lieu, n'est-ce pas, de citer les structures où vous avez 80% des gens d'une même province. C'est ça la vérité. Donc, c'est ça qui va faire en sorte que nous ayons une administration de qualité. Donc, il y a beaucoup de pesanteurs qui rongent l'administration publique. Et même s'il faut commencer par un pas, mais là, ça continue. Le clientélisme continue, les réseaux mafieux, on les connaît, on a dénoncé plusieurs fois. Donc, nous disons, nous sommes d'accord. Et dernier élément, j'allais oublier, c'est l'homme, ressources humaines, des qualités. Nous voulons bien une administration de qualité avec les hommes formés. Mais il y a eu rupture à cause des facteurs politiques qui nous ont accompagnés à la suite, n'est-ce pas, de la démocratisation des pays africains en général. Et c'est pour ça a bousculé beaucoup de choses. Nous avons été en rupture de coopération. Ce qui devait être fait n'a pas été fait. Les arriérés sont là. On a bloqué les arriérés des anciens fonctionnaires pendant des années, de longues années. Aujourd'hui, vous devez les envoyer à la tête parce qu'il faut faire un pas. Comme ça, dans les conditions infrahumaines, non.
Alors, Jean-Serge Bicourt n'a-t-il pas raison, Modeste Kayombo, quand il dit que l'on est dans un processus et que reconstruire est quand même plus difficile que détruire?
Bon, ce n'est pas que nous sommes opposés, mais nous disons, lorsqu'il faut reconstruire, il faut savoir quel sera le sort de ceux qui doivent partir, quel sera le sort qui sont les ayants, parce qu'on a été engagé, aujourd'hui vous devez rompre le contrat de travail, donc renvoyer quelqu'un. Qu'est-ce qu'il devient? Donc, on ne se préoccupe pas des droits de l'homme. Nous disons qu'on doit mettre les droits de l'homme au cœur du processus de réforme.
En d'autres termes, le fonctionnaire est en danger.
Oui. Sinon, et c'est comme ça que M. Tanguelli vous a dit, l'agent de l'État a tendance à repousser la réforme parce que la réforme est punitive.
Polydor Tanguelli, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Kindu.
Hassan Nyangwenil, je vous appelle à partir de Kindu. En parlant des réformes mises en chantier, on dit toujours qu'il y a que des avancées qui ont été réalisées, mais il y aurait beaucoup à faire, ou dans un processus, on doit toujours commencer quelque part. Ce sont des slogans qui reviennent pour tenter de justifier le manque de planification ou à la limite des échecs. On semble oublier que toute évaluation doit se faire par rapport à un certain nombre d'indicateurs objectivement vérifiables, sans quoi l'on se perd dans des spéculations dans tous les sens. Actuellement, le démembrement des nouvelles provinces intervient sans que la maîtrise effective des fonctionnaires ne soit assurée et pourtant, même des opérations de recensement ont été opérées et des deniers publics dilapidés pour se faire sans aucun résultat.
Voilà, veuillez nous excuser pour la qualité de cette ligne qui n'était pas tout à fait très claire. Polydor Tanguelli, quelle est votre réaction?
C'est une réaction qui rejoint pratiquement mon point de vue. En fait, tel que nous l'avons dit, on aurait dû avouer qu'il y a échec. Mais cependant, nous nous faisons le bonheur de dire que le bilan est mitigé. Pourquoi? Puisqu'il y a certaines réalisations qui sont des réalisations ténores que nous ne pouvons pas nier. En fait, ici, j'ai comme impression que nous avons un processus de réforme dont les diagnostics n'ont pas été bien posés. Puisqu'au fait, un diagnostic doit... On ne peut pas faire un diagnostic sans pronostic. Vous comprenez ? On ne peut pas faire un diagnostic sans pronostic. Au jour d'aujourd'hui, M. Serge est en train de nous avancer les chiffres de 800 000. Parmi ces agents, il y a certains qui vont être versés dans l'administration provinciale. Décentralisation oblige. Vous comprenez ? Donc, c'est comme si on est resté dans un carcan sans tenir compte de la dynamique de l'évolution des choses. Et à ce stade, dire que c'est vraiment une réussite, ça donne chair de poule. Et je pense que notre auditeur a raison en disant que lorsqu'on dit le bilan est pour, il y a eu des réalisations, beaucoup reste à faire, c'est une façon de camoufler, je peux lui donner raison. Par rapport à la contribution du gouvernement, c'est vrai, nous n'ignons pas que le gouvernement a toujours contribué, mais la hauteur de la contribution est le reflet de la volonté politique. Puisqu'aujourd'hui, tant que nous serons inférieurs à l'apport extérieur, je pense que contrairement à d'autres pays africains qui ont réussi leurs réformes, nous ne saurons pas à les égaler.
Alors, parlons à présent des propositions, Polydor Tanguely. Pour vous, quelles sont les propositions pour que ce processus soit un succès?
Pour qu'il y ait une réussite, je crois que je l'ai déjà dit, il faut une appropriation. C'est un des axes importants dans tout processus. Pourquoi ? Puisqu'il s'agit du changement que vous apportez aux bénéficiaires. Il faut qu'il y ait une appropriation. Au jour d'aujourd'hui, nous constatons qu'il n'y a pas une appropriation. Il faut qu'il y ait une forte communication. Il faut qu'il y ait des mécanismes internes de persuasion des fonctionnaires pour qu'ils fassent de leurs problèmes.
Qu'ils collaborent, qu'ils coopèrent à cette réforme.
Qu'ils coopèrent à cette réforme. Et là, nous allons avoir une réussite. Deuxièmement, qu'il y ait une certaine... Bon, c'est vrai qu'il y a une volonté politique, mais une volonté politique très déterminante. Tenez, Alain, aujourd'hui, on peut dire que la révision du cadre juridique s'est faite au niveau du Parlement. Mais le déclenchement du processus a pris combien de temps ? 10 ans ! Et nous ne savons même pas quand est-ce que l'ordonnance sera signée. Alors que je sais qu'il y a des lois ici qui, pour des raisons ou une autre, ne font que 6 mois de la conception au produit fini.
Et donc vous pensez que ça devrait être inséré parmi les priorités?
Ça devait être parmi les priorités, qu'on accélère ça, puisque la revue du cadre juridique détermine tout. Aujourd'hui, on ne sait pas faire partir les gens à la retraite en bonne et due forme, puisque en se conformant à l'ancien texte, on se rend compte qu'on donnera aux fonctionnaires des cadeaux empoisonnés et qu'il faut faire des montages du genre forfait à remettre aux fonctionnaires. Donc, ça devait être un des principaux axes, qu'il y ait une volonté. Il y a des lois qui sont votées et la loi sur l'administration publique, qui est l'épine dorsale du fonctionnement de l'État, a été un peu reléguée, mais elle est en étude maintenant, mais nous pensons qu'on devait accélérer. Faut-il encore dire ici que les deux textes ne suffisent pas, puisqu'elles seront suivies de presque 100 textes réglementaires qui ne sont même pas à chantier aujourd'hui. Donc on pourra avoir un texte, hein, on pourra avoir des lois dont l'applicabilité posera des problèmes et produira des effets corrosifs qui vont faire appel à d'autres réformes et ça risque d'être un éternel recommencement. Comme maintenant nous sommes en face d'un éternel recommencement.
Modeste Rachidi Kayombo, avant que je ne redonne la parole à Jean-Serge Bikoro, pour vous, quelles sont les propositions pour que ce processus soit un succès? Polydor Tanguely en a égrené quelques-unes.
Bien, moi je pense que il faut prendre les taureaux par la corne.
C'est-à-dire, concrètement?
C'est-à-dire que on a des effectifs statistiques qui ont été produits. L'âge pour aller à la retraite est connu, d'après l'ancien texte, et aussi d'après les non-accès aux nouvelles technologies des communications et d'informations. C'est exact. Donc, l'administration congolaise n'est pas modernisée. C'est une évidence. Mais par rapport à l'âge, à ceux qui doivent aller à la retraite, La caisse de retraite qu'on voudrait, n'est-ce pas, proposer là? Parce que moi, j'en ai vu quelques textes. Mais c'est comme l'INSS. Vous savez quel est le mal de l'INSS? Pourquoi nous, nous refusons l'INSS? Parce que sur les 100% des cotisations des travailleurs congolais, au lieu des 15% qui devaient servir au paiement du personnel interne de l'INSS, c'est 75% qu'on utilise pour le paiement du personnel, et la différence, c'est pour payer ceux qui ont cotisé, c'est une épargne, hein, qui ont cotisé, et qui deviennent de plus en plus nombreux. Alors donc, si on adopte cette méthode-là, donc cette vision, rien à faire, on va tout droit à l'échec, et les gens vont bouder. Donc, la réforme va échouer. Pourquoi ne pas repenser un autre système? Il y en a tant. Donc, nous pensons, par
en exemple... En guise de conclusion,
à ce moment-là, il faut d'abord mettre des tissus de sécurité sociale. Il faut effectivement une loi qui garantit les carrières et les emplois. Ça, c'est une évidence. Et il faut évidemment les équipements modernes, parce que l'administration doit s'adapter au contexte moderne.
Voilà, Jean-Serge Bicoro, vous avez suivi quelques propositions. Comment vous les percevez?
Non, je me réjouis de voir que les propositions faites ici sont déjà documentées au niveau de la réforme, au niveau de la politique générale du gouvernement. Parce que, effectivement, lorsqu'on parle de la décentralisation, je vous ai dit que les lois, les textes de loi qui sont en discussion au Parlement, c'était notamment pour intégrer cette approche du fait que nous avons opté pour un nouveau mode de gestion. Il faudrait donc adapter ces textes. Effectivement, le recensement dont il est question nous permet aussi d'anticiper sur les transferts des effectifs et des ressources humaines dans les secteurs désormais décentralisé. Et pour savoir quels sont les effectifs qu'il faut décentraliser, il faut les maîtriser d'abord et savoir faire l'état des lieux et la part des choses. Parmi eux, parmi ces ressources humaines, il y en a qui ont atteint déjà l'âge de la retraite. Vous n'allez pas transférer ceux qui ont atteint l'âge de la retraite aux provinces alors qu'on l'a utilisé déjà au niveau central. Donc, c'est des questions qui sont documentées et qui sont déjà prises en compte. Moi, je me réjouis du fait que les propositions ne sont pas nouvelles. Elles sont là. Maintenant, c'est question de voir comment les enchaîner au fur et à mesure. Je voudrais terminer en disant que la stratégie de la réforme repose sur trois aspects essentiels. La première, c'est la normalisation. Nous avons un texte de loi, et M. Rachidi a parlé de l'ancien texte, je préfère parler des textes actuels, parce qu'il est en vigueur. Est-ce que ce texte est respecté dans son opérationnalisation? Le gouvernement s'attelle aujourd'hui avec l'administration à pouvoir le faire respecter pour déceler tout ce qui ne va pas. Et au même moment, on réfléchit sur le texte qui va sortir. Deuxième axe essentiel, c'est, comme on dit, qui trop embrasse mal étreint. Donc, les actions de la réforme vont commencer à s'implémenter progressivement et les résultats observés au niveau de chaque ministère clé seront dupliqués au niveau des différents ministères, y compris les provinces. Troisièmement, c'est l'élargissement des effets. Mais je voudrais quand même souligner qu'il y a une avancée importante qui n'a pas été pourtant soulignée dans le domaine du dialogue social. Depuis 23 ans, il n'y a pas eu des élections syndicales pour pouvoir disposer des partenaires fiables, attitrés, avec qui le gouvernement peut échanger, avec qui le gouvernement peut échanger sur les procédures des réformes. Aujourd'hui, c'est un fait. Nous disposons d'un partenaire essentiel qui répond aux questions essentielles et préoccupations des agents et fonctionnaires de l'État.
Et donc, en un mot, tous les fonctionnaires qui vous suivent à travers le pays doivent espérer par rapport à cette réforme.
En un mot, ils ont vraiment l'occasion d'espérer et d'adhérer parce qu'il s'agit d'un projet d'avenir pour faire de l'administration publique un instrument efficace au service des usagers.
Polydor Tanguely, vous avez suivi Jean-Serge Bicoro. Je vous voyais sourire tout à l'heure.
Oui, le dialogue social a été un des atouts du processus de la réforme. Mais nous regrettons ici que ce dialogue soit fait dans une approche exclusive. C'est qu'il n'y a pas eu la prise en compte de toutes les sensibilités pour que la représentation soit une représentation digne dans laquelle se retrouvent tous les fonctionnaires. Et cette représentation est restée bornée au niveau de l'administration centrale, alors qu'au niveau des provinces, elle n'est pas visible. Donc, c'est un chantier où il y a des acquis, mais beaucoup reste encore à faire, comme nous l'avons dit, et 80% au niveau du dialogue social reste à faire.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci de votre attention, chers
chers auditeurs et internautes. Merci également à toute l'équipe rédactionnelle de Dialogue entre Congolais qui m'a accompagné. Kéline Kouté, Guy Maté, Berry Franklin Louchaka, supervision Léonard Moulamba, mise en onde Jean-Claude Nsiala, présentation et coordination Alain Hirung Mouchinge. Au revoir.